démasquer, juger.
Boulevard.
Salut, salut. Bon, hey, on est mercredi. Je suis mêlée, là. Mercredi, oui. J'ai quelque chose en tête comme si on était vendredi, mais je vous explique, là, c'est la dernière heure CV de la semaine régulière. Merci d'être là. Merci d'être branché avec moi. C'est vraiment un beau plaisir. Déjà au 88-971-1021, des gens qui me disaient qu'ils s'en allaient jouer au golf. C'est tellement une belle journée. Profitez-en bien. Pour ceux qui s'en vont faire un petit peu de plein air, de sport extérieur en milieu de semaine. Comment ça rime votre horaire d'été, justement, de votre côté? Est-ce que les vacances s'en viennent? Vous avez pris vos vacances quand? Je me questionnais là-dessus avec des amis hier. Plusieurs ont commencé dans les dernières années à en prendre fin août, début septembre parce que la température était magnifique. D'autres même qui l'ont pris avant le blitz de l'été. C'est quand pour vous la meilleure période pour prendre des vacances? Je m'attends à voir quelques personnes qui vont dire ben, dans la construction, par leur travail dans la construction et ou par le fait que le conjoint ou la conjointe travaille dans la construction. Mais à part ça, c'est quand le meilleur moment pour vous? Puis vous pouvez répondre aussi là, si c'est vacances de la construction. Hey, on s'installe tranquillement. À 10h02 aujourd'hui, côté température, on est gâté. 23 degrés comme maximum. Ça monte tranquillement pas vite. On a 18 à Québec. Ce soir et cette nuit, c'est 13 degrés. C'est bon pour le camping. Demain, jeudi, 24 comme maximum. En soirée, quelques probabilités d'averses, pardon. Et vendredi, ce sont des averses à 70% de possibilités. Et ça, c'est pour le territoire. Sinon, en fin de semaine, ça a changé. On aura du soleil jusqu'à facilement mardi prochain. Selon ce que je vois sur le site d'Environnement Canada. Bienvenue à tous, bienvenue chez vous à Boulevard 101, comme dirait Denis. Bienvenue aussi sur Twitch, les caméras sont bien parties, la conversation aussi. Aujourd'hui, une heure CV un peu saccadée parce qu'il y a un point de presse important un peu plus tard en journée, puis on va aller écouter tout ça dans Marceau le midi, donc on va couper un peu l'heure ensemble. Et pour les prochains jours, là, je vous en avais parlé si vous étiez sur Twitch, il y a toujours des petites exclusivités là, pendant les chansons ou encore les blocs publicitaires. Mais je quitte pour Nashville dans les prochains jours. J'allais faire un petit tour du côté du Bonnaroo Festival. Plusieurs têtes d'affiches, les Red Hot Chili Peppers, Off Moon Run et autres. Je m'en vais vivre ça avec, pour ceux qui le savent, là, j'ai une de mes meilleures amies qui a aménagé à Nashville dans les dernières années. L'amour l'a attiré là-bas. Et on lui avait promis, si c'était possible, dans notre gang, d'aller la visiter au moins aux 2 ans. Donc, le compteur est passé. On y va, en fait. Dans les prochains jours, cette gang de filles-là et moi, soit mes amis. Et puis, Bonnaroo Festival, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce festival-là au Tennessee, qui est un petit peu plus... c'est pas hippie, mais c'est un festival qui est clairement pas électro, là, où les gens dorment dans des tentes ou louent des hôtels à proximité, mais s'en vont là pour avoir du bon temps. Et ça dure quand même quelques jours. Là. On est sur 4 jours, en fait. C'est des grosses têtes d'affiche. Post Malone, les Red Hot Chili Peppers, comme je vous disais. Il y a Cage the Elephant, Cigarette After Sex qui seront là aussi. Quand tu parles de Half Moon Run, c'est sûr que tu attires mon attention. Pour ceux qui ne l'ont pas vu au moins une fois ce band-là en spectacle, il était venu au Festival d'été de Québec dans les dernières années et ils seront pas juste du côté du Tennessee. Ça coûte pas mal moins cher d'aller les voir du côté du festif de Baie-Saint-Paul cet été. Il y a énormément de bands que vous connaissez comme un peu hétéroclite comme présentation là, de festival, entre autres Sean Paul qui est là. C'est mélangé avec des styles musicaux qui, normalement, ne sont pas ensemble dans un festival. Alors, c'est un peu ça qui fait la renommée de Bonnaroo du côté du Tennessee. On va aller faire un tour là-bas. Je vais essayer de faire un petit phoneur peut-être en direct. Ça veut dire d'appeler Yannick pour dire comment ça se passe, l'ambiance et autres. Puis, je vais revenir la semaine prochaine. Le plan de match pour les prochains jours, entre autres, demain... Et vendredi, on se met en mode heure CV spéciale Sainte-Nitouche. Pour ceux qui ont suivi le podcast, on parle de relations interpersonnelles, on parle aussi de couple, d'amitié et autres. Puis j'en avais enregistré un avec Thomas Levac, que vous connaissez, l'humoriste ou le podcaster. selon comment vous le connaissez. Et on s'est confié sur beaucoup de choses. Là, il faut quand même que je vous dise que quand je l'ai enregistré, j'étais en couple. Fait qu'il y a des choses qui vont être dites qui ne sont plus d'actualité, mais qui font partie quand même de confidences du passé. Puis Tom Levac, c'est surtout sur lui qu'on s'est concentré. Il va dans une grande candeur, une grande honnêteté sur son passé, sur le fait qu'il pensait qu'il allait jamais être en couple, sur le fait qu'il y a des obstacles et des défis personnels qui s'immiscent dans sa vie relationnelle, ce qui est totalement normal. Alors ça vous sera présenté. Et ce matin, Nathan et moi, on s'est payé un petit fantasme radiophonique. On a fait un épisode ensemble. On était supposé faire une dizaine de questions. On a réussi à en faire beaucoup moins, vous comprendrez, mais on est allé très creux dans tout ça. Et c'est une conversation qui vous sera présentée de façon intégrale dans leur CV. On a tellement eu de fun qu'on risque d'en faire une partie 2. Alors, même si je ne serai pas devant vous en réel pour les prochains jours, écrivez-moi. Écrivez-moi vos commentaires, ce que vous avez pensé, ce dont ça vous, à quoi ça vous a fait penser, réfléchir. Si vous avez des anecdotes de couple aussi, si vous avez une réflexion par rapport au sujet qu'on va avoir abordé, ça me tient à cœur de vous lire. Malgré tout, vous pouvez passer par les réseaux sociaux de Boulevard 102.1 ou encore mes réseaux sociaux, puis ça va me faire vraiment plaisir de vous lire. Le proverbe aujourd'hui, ce n'est pas la longueur de la vie, mais la profondeur de la vie qui compte. Ce n'est pas la longueur de la vie, mais la profondeur de la vie qui compte. Voulez-vous dire quoi sur votre lit de mort? C'est quoi la dernière phrase que vous aimeriez vous dire? Bon, c'est sûr qu'on ne parle pas de mort subite et autres, mais peu importe. Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire une fois que ça va être fini? Une fois qu'on ferme les lumières, qu'est-ce qui doit rester pour vous? Qu'est-ce qui va avoir été l'essentiel? J'adore ce proverbe-là. Ce n'est pas la longueur de la vie, mais la profondeur de la vie qui compte. Puis ça va un peu avec ce qu'on va vous présenter comme RCV spécial Sainte-Nitouche dans les prochains jours. Je vous demandais, c'est quoi le temps idéal pour prendre des vacances, selon vous? Où est-ce que vous allez vous situer, vous, cet été? Quelqu'un qui dit, normalement, prenez nos vacances à la fin de l'été, les deux dernières semaines d'août. Fallait s'arranger avec les camps de jour et le début des classes. C'est vrai, j'oubliais ça. Les parents, vous n'avez pas beaucoup de facilité avec le tout. Souvent, c'est un peu imposé par l'horaire des enfants, là, puis d'école. Les filles sont rendues ados. Alors, cette année, on prend les semaines du 8 et du 15, juste avant la construction. C'est leur première année à faire un réel choix. Bravo, c'est le fun, ça. Quelqu'un qui dit, moi, c'était à la construction, mais ça fait pas mon affaire du tout parce que mon chum peut jamais avoir ces semaines-là. Ah, on a des vacances là, différentes. C'est un peu plate hein, quand déjà, tout au long de l'année, on a des horaires qui diffèrent. Quelqu'un qui dit, j'adore prendre mes vacances avant tout le monde, température plus fraîche, camping, désert, du temps que pour moi et ma famille. En n'ayant aucune contrainte d'activité ou de réservation. On peut choisir au jour le jour ce qu'on fait. C'est très bon, ça. Puis on finit en disant que c'est début juin pour cette personne-là. Quelqu'un qui dit « De plus en plus, nous partons à l'extérieur. Malgré la belle température estivale au Québec, on choisit de s'éloigner des Québécois. » Oh! Il y a des gens que ça leur tente pas partout. Hein? Quelqu'un qui dit « Moi, c'est la semaine prochaine. Comme ça, les boutiques sont pleines de produits, pas beaucoup de gens. On peut s'amuser. Les restos ne sont pas bookés. » Quelqu'un qui dit « J'aimerais ça me dire... » Ah ouais, ça, c'est répondre à la question du lit de mort. « J'aimerais ça me dire que j'ai eu du fun en pas à peu près. » Il y avait un beau sac là-dedans, là, mais c'est vrai. Quelqu'un qui dit « Mes vacances, c'est toujours pendant le Festival d'été de Québec, du 7 au 20 juillet. Puis ensuite, je me repose du fait que je garde quelques jours, mais je fais pas autrement. » Quelqu'un qui dit « Moi, c'est la première année que je réussis pas à avoir mes semaines de congé souhaitées. » Donc, j'ai pris mes vendredis, tous les vendredis de l'été, pour en faire des trois jours, des fins de semaine de 3 à 4 jours. Ah, c'est bon ça. J'avais fait ça l'an passé, puis j'ai adoré le concept. C'est vrai que finalement, tu te sens en vacances plus régulièrement qu'autrement. Hey, bienvenue dans leur CV. On passe ça tranquillement, pas vite. Soldia et Jay Scott, grands frères dans vos oreilles. Merci d'être bien branchés.
Avec Pascal CV.
Oui, vous êtes dans leur CV. On va faire un petit tour des nouvelles ensemble. Il y en a plusieurs à signaler, entre autres la grève dans les traversiers du Québec. 21 et 22 juin, il faut le mettre à notre horaire, ça vous concerne, là. Mais grève officielle des officiers de navigation, des officiers mécaniciens de 5 traversiers du Québec. On savait que ça pouvait nous toucher ici à Québec, mais finalement, c'est beaucoup plus que ça. Du 21-22 juin, ça tombe dans des journées où les gens, peut-être, ont collé leur congé dessus, ce qui fait en sorte que... ça peut être un peu coûteux pour certaines personnes là, au niveau de la planification des vacances. Si vous vouliez aller dans un endroit où il fallait prendre un traversier, il va falloir faire attention. Puis c'est en attendant ça, 8 autres journées de débrayage qui seront déterminées plus tard. Donc, c'est une grève qu'on dit qui devient inéluctable parce qu'il y a eu un vote à 93 % des 150 métallos de section locale. Ça, c'est beaucoup de personnes quand même qui risquent de prendre des décisions qui vont paralyser les traverses de Québec-Lévis, Matane, Godbout, Tadoussac, Baie-Sainte-Catherine, L'Île-aux-Coudres, Saint-Joseph-de-la-Rive et Sorel-Saint-Ignace de Loyola. C'est important d'en parler parce que oui, les gens qui montent sur la Côte-Nord, qui partent un petit peu partout en camping, découvrir le Québec, ben ils seront impactés par cette grève-là. Donc, une grève du 21 au 22 juin, finalement, les deux jours, là, c'est à mettre dans votre calendrier, peut-être revoir aussi vos déplacements. Ce qu'on dit, c'est que, bon, pour la STQ, la Société des transports du Québec, puis tout, là, des traversiers du Québec, pardon, on ne paie pas. On est payé, en fait, beaucoup moins cher que les autres et c'est pourquoi qu'on essaie d'avoir une convention collective et d'avoir des aspects monétaires qui sont revus. Mais il y a aussi une grosse question d'horaire, c'est ce qui tramait depuis un petit bout pour cette grève-là. Intéressant, le texte dans le site de Radio-Canada ce matin sur Ici Québec, la commission, on le sait très bien, là, la commission, je l'appelle anti-tramway et ou pour tramway qui s'est finalisée avec le rapport de la Caisse de dépôt et de placement infra qui avait été demandé en fait par le gouvernement de la CAQ. Et on titre, la Caisse de dépôt et de placement du Québec ne fera pas de cadeau à la CAQ. Donc, il y a eu des conclusions qui ont été rendues publiques jusqu'à maintenant. Il y en aura d'autres qui vont suivre, mais c'est clair que la CDPQ n'a pas cherché à ménager le gouvernement dans ses conclusions. C'est ce qu'on analyse du côté de Radio-Canada et on dit qu'on n'a pas proposé de voie de passage en offrant une proposition assez différente de tout ce qui a été étudié à Québec dans les dernières années, mais qui est maintenant temps de trancher. Puis on arrive à cette conclusion qui est la même et un peu différente de tout ce qui avait été écrit sur le sujet de la mobilité depuis les 40 dernières années à Québec. Ça veut dire que est-ce qu'on a quelque chose d'autre qu'à proposer que ce projet-là de tramway? Puis on dit que c'est non, mais il faut revoir quand même certaines portions du dit projet. Le maire Marchand, quand même, on a hâte de voir comment il va gérer tout ça parce qu'il va rencontrer la presse tantôt et il serait étonnant de le voir avec un air quand même triste parce que c'est un bon plaideur du tramway à Québec. En quelque sorte, la caisse est allée légitimer le travail du bureau de projet de tramway à Québec, la rigueur qui n'a pas été remise en question par rapport à ces travailleurs-là et peut-être qu'on justement, on va voir un maire Marchand très heureux de ce qui a été coulé dans les médias au courant des dernières heures. Vague de démissions sans précédent chez les directions d'école. Est-ce qu'on a trouvé qu'il a fait trop chaud cette année avec la grève? Est-ce qu'on sent entre l'arbre et l'écorce du côté des directions d'école? C'est quelque chose qui avait été largement mentionné quand on questionnait des enseignants, comme quoi il y avait une difficulté à bien agir parce qu'on souhaitait défendre nos employés, nos enseignants qui sont sur le terrain, qui vivent des difficultés, mais on était aussi pris envers tout ce qui est convention, règlement, ministère de l'éducation, les patrons aussi. Donc, sur les lignes de piquetage pendant la grève des enseignants en automne dernier. Il y a des directions qui envoyaient du café, mais qui n'allaient pas se présenter, par exemple, en personne parce qu'ils ne pouvaient pas. Donc, est-ce que c'est ça qui a mené à une vague de démissions qu'on dit sans précédent chez les directions d'école? Mais beaucoup de départs en vue de la prochaine rentrée. Ils n'ont jamais été aussi nombreux, ces départs-là, selon une association qui les représente. Après ces profs-là, ben, c'est les directions d'école qui quittent le navire. On dit que c'est des démissions qui sont survenues au cours des dernières semaines et que dans ces départs-là, on n'avait jamais vu autant de personnes exténuées par ce métier-là de direction d'école. On compte environ 2300 membres dans ces directions d'école-là au Québec, puis proportion de 2,6% de gens qui démissionnent. C'est beaucoup quand même. Et au lieu d'occuper un poste de direction ou de direction adjointe dans une école pour l'année prochaine, il y a un peu plus de la moitié de ceux qui ont démissionné qui vont retourner enseigner et les autres vont juste quitter définitivement le milieu scolaire. Donc, pour certains, c'est de retour dans les classes avec les élèves. Pour d'autres, c'est tout simplement c'est terminé. Est-ce qu'on va être capable de pallier à ça avant le début de l'année scolaire? on doute fort. Des directions d'école qui sont en négociation aussi, parce que là, il faut savoir que les directions d'école étaient en train de négocier pour leur, à leur tour, là, après les enseignants, pour leur contrat de travail avec Québec, avec le gouvernement. Et ça se faisait aussi ben, en ce moment, mais pour les prochains mois. Et historiquement, il faut que je vous dise, les hausses salariales qui ont été consenties sont quand même calquées sur celles des enseignants. Mais il y a eu un décalage entre deux négociations et ça en a découragé plusieurs. Alors voilà où on en est. C'est pas facile dans le système scolaire et ça ne le sera pas à l'entrée, à la rentrée prochaine. Moins d'immigrants temporaires, et ça, c'est une menace pour l'économie selon le patronat. Ce qu'on dit, c'est que avec la demande du premier ministre François Legault, soit de réduire la moitié du nombre de demandeurs d'asile d'ici un an et les travailleurs étrangers temporaires aussi le plus rapidement possible, bien, ça suscite des inquiétudes dans le milieu des affaires. Entre autres, tu sais, moi, je me souviens, j'avais été une journée complète avec des travailleurs étrangers du côté de l'île d'Orléans pour ramasser des fraises. Premièrement, on m'avait expliqué que pour avoir l'arrivée de travailleurs étrangers, il faut prouver avec multiples mesures des demandes des demandes auprès d'organisations qui doivent placer des Québécois au travail, également des postes affichés, etc., etc., qu'on n'a pas eu personne pour combler cette case-là d'employés dans l'entreprise. Donc, en secteur agricole, ce serait par exemple pour ramasser des fraises. On a tout fait pour signaler, signifier qu'on a besoin de travailleurs, mais il n'y a personne qui a levé la main, donc on n'est pas capable d'employer. Il faut aller à l'extérieur. Donc, c'est des grosses démarches. Ensuite, il faut les loger. Il faut s'assurer qu'ils soient dans des conditions de vie, parce qu'on a vu des reportages épouvantables à travers le Québec, qui sont acceptables, qui sont humaines. Il faut s'assurer qu'il y ait une immigration temporaire qui se fasse très bien, qu'il y ait une certaine régularité dans les corps de travail, qu'on soit capable de donner du travail pendant le nombre de semaines assignées à cette arrivée de travailleurs temporaires-là. Et c'est super complexe, en fait, à faire. C'est un long cheminement. Là, inquiétude dans le milieu des affaires. C'est sûr, si je me réfère à ce que l'agriculteur m'avait dit, c'est qu'il n'y a pas de fraises du Québec sur vos tablettes s'il n'y a pas ces travailleurs étrangers temporaires-là. Parce qu'il dit « je ne fournirai jamais à la demande et je gère une business en soi ». Donc, il faut des gens dans les champs. Il y a beaucoup d'associations là, de commerçants qui se demandent comment cette décision-là politique peut être mise en œuvre sans compromettre le développement économique du Québec. Parce qu'on dit qu'à la fin de l'année dernière, dans la province, c'est 560 000 immigrants temporaires qui étaient ici. Puis là, on se priverait de facilement, avec cette nouvelle façon de faire les choses imposée par le gouvernement, 280 000 travailleurs. Et là, c'est le bas qui blesse, comme on disait, c'est là où le bas blesse, parce qu'on s'interroge sur la capacité d'adaptation des entreprises dans un délai aussi court. Comment est-ce qu'on va trouver de la main-d'œuvre pour local, où on va pouvoir investir dans peut-être de l'autonomisation aussi rapidement que ça? C'est impossible. Donc là, c'est des pertes assurées, autant économiques que de roulement dans des entreprises. Puis c'est une démarche qui est très, très importante en ce moment pour plusieurs employeurs, soit de se faire entendre, de se faire comprendre que c'est aussi la vitalité des régions qui sont en jeu, hein, parce qu'il y a des conséquences dommageables pour le développement économique des régions dans tout ça. On pense que ça va avoir des conséquences majeures, que ce soit au niveau des délais plus longs, des contrats non obtenus, des bris de services, et ça peut justement faire en sorte qu'il y ait moins d'innovation dans les entreprises, mais tout simplement des pertes économiques et des pertes de matière, là, que ce soit ce qu'on vend ou encore ce qu'on transforme. Ça peut avoir un impact puis un chemin de roulement très difficile pour la suite des choses. Même ceux qui n'en emploient pas pourraient voir leurs marchandises premières ne pas arriver dans les entreprises ou encore de la nourriture ne pas arriver, etc., etc. C'est assez complexe et important quand même d'adresser la question. Mais c'est quelque chose qui est interrelié avec la crise des logements. Si on n'est pas capable de loger ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est quelque chose qui est interrelié avec l'adaptation qu'on peut avoir auprès de ces gens-là qui arrivent. Est-ce qu'on les insère très bien dans leur corps de métier? Est-ce qu'on leur permet de bien s'intégrer dans notre communauté? C'est des questions qui se posent. On comprend pourquoi le gouvernement a eu cette réflexion-là, mais est-ce qu'on l'a eu assez loin, soit regarder aussi le roulement économique puis les apports qui amènent à ces entreprises-là? Peut-être pas. Bras de fer entre Québec et les médecins de famille. Ça aussi, ça se poursuit. C'est dans l'actualité aujourd'hui. Pas facile. On dit que le nombre de rendez-vous disponibles au guichet d'accès de la première ligne, là, ça demeure nettement sous la moyenne. Il y a encore encore des négociations entre le Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens. Et là, on entre dans la troisième semaine. Sonia Lebel en a eu par-dessus la tête hein, de ces genres de grèves-là cette année. J'espère qu'elle ne va pas s'épuiser en politique. Pour cette raison-là, ça ne doit pas être facile à gérer, à moins qu'elle aime ça, il faudrait qu'elle nous le dise. Mais le gouvernement et le syndicat des médecins de famille là, se sont engagés depuis la fin mai dans des pourparlers. Puis ça, ça visait à prolonger de quelques mois une entente financière de 2 ans qui arrive à échéance. Et il y a un des éléments majeurs là-dedans des négociations qui est le forfait de 120 $ par année, soit 30 $ par trimestre pour la prise en charge collective des patients qui sont orphelins. Du côté de cette banque-là, de guichet d'accès à la première ligne, il y a plusieurs médecins qui ont notamment utilisé ces sommes-là pour essayer d'embaucher des infirmières, du personnel administratif pour essayer de donner des rendez-vous aux patients qui ont été redirigés ailleurs. Mais c'est fondamentalement difficile là, de gérer le tout. Puis c'est surtout avec Québec que ça accroche encore. Ils en ont pas à peu près par-dessus les épaules, la tête, en fait, avec les conventions collectives, avec les négociations du gouvernement. On est en crise dans chacun des ministères. Il faudrait même pas l'oublier parce qu'on est en train de l'oublier. L'été arrive. On va passer à autre chose. On a nos petites gestions personnelles, mais c'est loin d'être réglé, puis l'automne risque d'être, encore une fois, très, très, très chaud. Puis ça impacte tout le monde. C'est comme toute l'arrivée des immigrants dont on parlait. C'est une roue qui tourne et chacun des engrenages touche à l'autre puis amène des conséquences importantes. Et pas facile à être politicien de nos jours. On prend une courte pause. On revient dans leur CV.
Sur un chemin de camp. Pascal CV.
On est de retour à l'émission dans leur CV. Il fait 18 degrés et j'ai reçu des textos, en fait, par rapport à quelque chose qui se passerait aux Galeries de la Capitale. Avez-vous de l'information? Je sais que vous êtes nos yeux, nos oreilles là, sur le terrain, mais on nous demande justement là, qu'est-ce qu'il y aurait du côté des Galeries de la Capitale? Des gens qui seraient dehors? Est-ce que c'est une alarme incendie ou quoi que ce soit, là, ça serait intéressant si jamais vous avez de l'information. 418-971-1021 ou encore sur Twitch. Est-ce que vous pouvez nous parler des passes du Festival d'été de Québec pour pas que les gens se fassent avoir en achetant des passes déclarées volées? Sachez que oui, il va y avoir des passes qui vont être un petit peu contre-productives par rapport au Festival d'été de Québec. Je vais le dire d'une manière polie, là, mais il y a du monde qui sont des petits coyotes puants qui ont décidé de voler des passes et de les revendre sur Marketplace et des sites comme ça. L'affaire est que pour ceux qui ont été volés, c'est important de le déclarer au Festival d'été de Québec, pas juste à votre entourage, pas juste à vos amis, parce que de cette manière-là, elles seront annulées. On va être capable d'enlever un peu là, l'activité de la puce qui est à l'intérieur de vos bracelets ou encore de vos passes, qu'elle soit VIP, argent, or, peu importe, et faire en sorte que si la personne arrive, en fait, sur le site du Festival d'été de Québec, elle ne puisse pas en profiter. C'est sûr que si toi, tu te fais avoir parce que tu en achètes sur Marketplace et qu'elles ont été volées, est-ce que tu vas le savoir? La réponse est peut-être non. Tu vas le savoir une fois arrivé. Il n'y a pas vraiment moyen de réussir à se prémunir de tout ça. Tu vas l'apprendre sur le tas, comme on dit, là, pendant que tu vas aller à ton spectacle, mais sachez qu'il y a quand même ces risques-là en ce moment. Donc, il faut peut-être établir un lien de connaissance envers la personne qui vous en vend ou tout simplement ne pas acheter de passes qui sont en revente. Est-ce qu'on est capable de contrer le fait qu'elles ont été volées, du genre prouver que vous avez acheté ça avec, 250 sur Marketplace puis que vous voulez être légitime et autres? Non. Le rendu-là, le Festival d'été de Québec ne va pas donner d'accès supplémentaire, malheureusement, au site parce que vous avez acheté une passe qui a été volée. C'est bien plate, assurément, mais ça fait partie un peu de tout ce qui est responsabilité individuelle dans tout ça. Assurez-vous d'acheter à quelqu'un qui est légitime, à quelqu'un que vous pouvez faire confiance, parce que pour la suite des choses, le Festival d'été de Québec, s'il commençait à s'ajuster comme ça, bien, il y aurait possibilité de faire entrer beaucoup plus de personnes sur les sites, et ça, c'est pas nécessairement une stratégie qui a été évoquée. Une nouvelle de l'international. Il y a une tension, vous savez, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et la Corée du Nord, dans les dernières heures, a décidé d'installer des haut-parleurs géants tout le long de la frontière avec la Corée du Sud. Ces tensions-là qui sont aux abords de la frontière, c'est hautement sécurisé. Et on a repris dans les derniers jours une forme d'intimidation quand même assez originale, hein, les caisses de son. On a été ingénieux, il faut le dire, mais on nargue quand même le voisin. Puis c'est deux pays ennemis qui cherchent par tous les moyens là, depuis plusieurs années à contourner, voire à survoler la frontière qui est ultra militarisée, qui partagent entre eux. Et on essaie de déplacer d'énormes haut-parleurs devant. Je lisais ça dans le The Independent, comme quoi la Corée du Nord serait en train d'installer ces grosses enceintes-là là, le long de la frontière pour essayer de diffuser prochainement de la propagande de l'autre côté. C'est pas du Sean Paul qu'ils vont diffuser, mais quand même, ce sont des messages. Et c'est une tentative d'intimidation qui survient après que la Corée du Sud ait elle-même placé d'immenses haut-parleurs juste devant la frontière. Là, pour la Corée du Sud, on avait diffusé de la propagande anti-Pyongyang et de la musique pop sud-coréenne cette fois-ci. Puis c'était une première depuis 2018, soit d'avoir une autre façon de faire pour essayer d'intimider son voisin. Là encore, c'est des représailles, c'est un genre de concours de gros bras, là. Mais il faut savoir qu'on a décidé de relancer cette guerre sonore-là avec son voisin après plusieurs années de relative détente entre les deux pays. Puis ça, c'est la portion assez importante, puis peut-être un petit peu plus sérieuse, la nouvelle. Mais c'est une manœuvre là, du Nord d'essayer d'impliquer un peu d'appliquer sa présence, de signaler sa présence. Mais finalement, c'est juste des gros haut-parleurs qui se parlent entre eux et ça fait un bruit assourdissant. Ils ont essayé dans les dernières semaines d'être intimidateurs d'une autre manière aussi parce que Pyongyang avait envoyé plus de 1000 ballons remplis de déchets et de fumier vers la côte sud de la frontière. C'est pas rien. Des déchets puis du fumier. Puis, ben c'est pas un geste qui avait été apprécié, on s'entend, par le gouvernement de Séoul. Puis on avait riposté, je vous jure, c'est vrai ce que je vous dis, on avait riposté à ce moment-là à coup de K-pop. Donc, c'est une genre de guerre de qui va être le plus créatif et original pour intimider l'autre. Corée du Nord qui avait justifié sa campagne d'envoi de ballons de déchets puis de fumier comme étant une riposte contre les groupes civils sud-coréens qui faisaient en fait des vols de tracts de propagande. Puis là, il y avait des clés USB remplies de chansons puis de drames populaires sud-coréens qui étaient distribués. Puis ça irritait énormément Pyongyang. Finalement, ils se relancent à chaque fois puis disent tout le temps que c'est la faute de l'autre. Mais les deux pays rejettent la responsabilité d'une escalade qui arrive en ce moment, puis chacun appelle l'autre à cesser ses intimidations en premier, puis qu'est-ce qui va remporter la surenchère, je ne sais pas, mais on dirait un mauvais film, en même temps très créatif, vous riez tous, vous êtes tous crampés, mais il y a quand même un aspect sérieux puis important là-dedans, là. C'est des relations internationales qui se valent, puis qui sont assurément dans la cadence de tout ce qui se passe avec la Chine, avec la Russie, avec l'Ukraine et autres, mais Corée du Sud et Corée du Nord ben, sont de retour dans leurs idées créatives pour s'intimider, soit avec des haut-parleurs, de la musique K-pop, des ballons remplis de déchets, de fumier, ou encore tout simplement des messages de propagande aux abords de la dite frontière. De notre côté, ce qui sort du côté des nouvelles un petit peu plus insolites, c'est la Bible des prénoms. Oui, les prénoms les plus inusités donnés au Québec en 2023. Je sais pas si vous avez jeté un coup d'œil à ça, mais oui, il y a toujours les vedettes, les personnalités connues, là, Abba, Scarlett, Shakira, Stormy Daniels, Jay-Z pour Jay-Z, Ozzy et autres, Ricardo, notre chasseur-cueilleur, Ricardo, qui a été honoré dans un prénom de jeune homme en 2023. Ce qui se fait un peu plus rare quand même, qui est ressorti, c'est des Alain, des Bob, des Claude, des Cora puis des Jeannette, qui ont été donnés à des enfants comme prénom. Il y a beaucoup de spiritualité. Là. Gift est sorti comme le nom d'un jeune homme. Il y a le nom Love Deep qui est sorti pour le nom d'un autre jeune homme. Peace est sorti, Sincère. Zion Fabulous, c'est sorti aussi. Pour les jeunes filles qui sont nées, Allégresse, Beauty, Bienvenue. Blessing Joyce, Forever, God Love, ça, Sublime Ameda est sorti. T'sais, on lui donne tout de suite un qualificatif pour être sublime dans la vie. Trésor, Trinity Love, tout ça c'est vrai, hein, c'est vraiment épluché dans la banque des prénoms. Il y a beaucoup de géographie, il y a des noms de pays, autant dans le masculin que dans le féminin. Des noms un peu qui pourraient se référer à Ricardo là, en termes de cuisine, là, comme Angus, Anis, Baker ou Curry. Ça, c'est des vrais noms qui ont été donnés. Mais quand on commence à creuser un petit peu plus loin, ceux qui auront une grosse vie, Cartier Ice, Cash, Diamond, Fresh, Royauté, Givenchy, John Levy, Royal Royal, ça c'est masculin. Dans le féminin, on a Benedict, V, Emerald, Ruby, Skyla Precious, Stone, Summer Jade. Ça aussi, c'est sorti. C'est des grosses vies financières qui les attend. Il y a des noms aussi qui ont été donnés qui ont un bel effort nostalgique sur la fiction. Anakin, Astro, Cosmo, Django, ça a été donné à des jeunes hommes. Yoshi aussi est sorti. Puis pour les femmes, il y a Padmé puis Milou aussi qui est sorti. Dans les variables, il y a encore beaucoup de noms composés. Hein. On a des Diven Jr., des EJ, des Cooper Serge. Cooper Serge, j'ai mis du surligneur là-dessus. Je ne sais même pas comment tu fais pour y penser, c'est extraordinaire. Cooper Serge. Tu vas un peu avec de l'anglophone, puis tu vas un peu avec du francophone. Extraordinaire. Gino Martineau est un prénom donné au Québec, sachez-le, en 2023. James Blaze, ça c'est John Smith, hein, pour les références peut-être à Disney. Mais vraiment, Gino Martineau, puis Cooper, Serge, je ne suis pas sûre, je vais m'en remettre. Les 10 prénoms les plus populaires donnés au Québec en 2023, ça aussi, c'est sorti. Là, on est dans ce qui a été vraiment, vraiment, vraiment populaire. Là, pour les filles, le premier, c'est Alice. Florence en deuxième position, Emma en troisième, Olivier en quatrième, Charlie en cinquième. Ensuite, Charlotte, Livia, Léa, Béatrice et Juliette. Si vous êtes parmi ces prénoms-là, vous n'êtes pas nécessairement originaux auprès de vos enfants, mais c'est de magnifiques prénoms. Pour les garçons, Noah. Toujours en première position, ça fait des années ça que c'est populaire. Liam en deuxième, Léo en troisième, Thomas par la suite, William, Édouard, Jacob, Louis, Nathan, Arthur, etc. C'est ressorti énormément. Je vois mes collègues qui sont prêts à venir en onde. Pourquoi? Parce qu'on va suivre la conférence de presse de Québec. Le maire Marchand qui, assurément, devrait commenter aussi toutes les nouvelles pour la capitale nationale. Mais sachez qu'on est dans l'arrivée au Conseil des ministres aussi. Donc, on va suivre ça avec Yannick Marceau. Leur CV est coupé. Pour cette raison-là, puis on reste avec vous. Je sais, Gino Martineau, ça, vous m'écrivez ça pendant que je vous salue et que je termine l'émission. C'est très bon. Je vais essayer d'appeler Marceau comme ça aujourd'hui. Ça va être excellent. Merci d'avoir été là. On se retrouve à tout de suite dans Marceau le midi qui commence un petit peu d'avance. Rouge Pompier juste avant.